Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est un petit groupe dans une très, très grande salle. Je ne sais pas si ceux qui sont aux extrémités voudriez vous rapprocher un petit peu, donner l'impression que je suis pas en train de jaser comme à du monde super loin, mais un peu plus avoir un groupe proche de nous. Alors, pour commencer sous peu, vous allez m'excuser un petit peu. Vous allez voir, à un moment donné, je vais avoir mon épouse qui va s'en venir m'apporter mon ordinateur. Je voulais imprimer des notes, mais malheureusement, j'ai eu un petit problème technique et j'ai pas mes notes complètes en ce moment. Mais pour le début, là, ça devrait aller, mais à un moment donné, là, je vais juste faire une petite transition. Il y aura pas vraiment d'enjeu, mais bon, il va y avoir un petit switch ici à l'avant. Donc, je vais commencer en priant. Écoutez, on est rendu à, c'est quoi, le cours 11. Je pense sur Dieu dans mon travail, le chapitre 11. Et on va pouvoir voir un peu un nouveau sens moral pour le travail, hein, comment Dieu vient changer notre moralité, vient définir en fait qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, sans plus tarder, je vais commencer en prière, puis on va pouvoir se lancer directement dans le contenu. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement riche pour nous enseigner sur une si grande quantité de choses et qui est tellement appliquée pour nos vies, Seigneur, qui a tellement d'applications, tellement de compréhension qu'on peut avoir à cause d'elle. Je te prie, Seigneur, de pouvoir nous enseigner ce matin sur le travail, comme tu as fait dans les dernières semaines, qu'on puisse avoir une meilleure compréhension, Seigneur, de ce que tu veux qu'on fasse à travers notre travail et puis qu'on puisse vraiment t'honorer à travers celui-ci. Soit avec notre intelligence également ce matin, qu'on puisse bien comprendre et bien, Seigneur, mettre en application ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, un nouveau sens moral pour le travail. Hein, chapitre 11 du livre de Tim Keller, La moralité, l'éthique, montrer à quel point l'éthique est importante. Si je vous posais la question, est-ce que du haut de votre tête, vous pouvez penser à des dilemmes ou des enjeux éthiques qui ont eu lieu, on va dire, au Québec dans les 10 dernières années? Parfois, il peut y avoir des vraiment gros éléments, hein, qui touchent à l'éthique. Moi, je veux vous parler un peu ce matin de quelque chose qu'on connaît assez bien, qui a un peu chamboulé le monde du travail au Québec il y a une dizaine d'années, c'est la commission Charbonneau. Bien sûr, je pense que tout le monde ici a entendu parler de la commission Charbonneau. Je ne sais pas les plus jeunes si vous avez connu ça, mais c'est quelque chose qui s'appelait officiellement la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Donc, on venait examiner la construction au Québec, comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce que les contrats étaient gérés, comment est-ce que c'était alimenté. Et il y avait un objectif très clair. Dans le fond, quand on a lancé cette commission-là, bien, premièrement parce qu'on pensait qu'il y avait certains enjeux, certaines choses qui étaient à prendre en considération. Et c'était de faire la lumière sur les pratiques de collusion, de corruption et d'influence qui avaient lieu dans l'industrie de la construction et examiner comment ces pratiques touchaient nos institutions publiques, nos élus et nos organismes municipaux. Alors, vraiment regarder, est-ce qu'il y a de la corruption, de la collusion? Est-ce qu'il y a des personnes qui essaient de faire de l'argent un peu à travers ce système-là, à travers les offres, comment ça fonctionne? Et dans le fond, c'était un effort collectif pour comprendre, hein, comment est-ce que dans notre système, parce que c'était quelque chose qui était le public, dans notre gouvernement provincial, nos gouvernements municipaux, hein, comment est-ce que quelque chose qui pouvait avoir l'air si solide, justement, pouvait être rongé de l'intérieur par des gestes immoraux et des mauvaises décisions? Donc, si je parle de cette commission-là aujourd'hui, ce n'est pas pour pointer du doigt et dire, ah, vous voyez, ça, c'est l'action qu'il ne faut pas faire. Non. Ce que je veux plutôt qu'on voit à travers ça, c'est que ça nous a rappelé quelque chose par rapport au cœur humain, cette commission Charbonneau-là. C'est que l'éthique nous concerne tous, peu importe notre métier ou notre rôle dans la société. Hein? Quand on parle de corruption, de collusion, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui, tu dis, ah, mais c'est juste les hauts fonctionnaires d'une certaine compagnie, c'est ceux qui prennent les décisions au final, c'est eux qui sont responsables de ces différents éléments-là. Mais ce qu'on s'est rendu compte à travers tout ça, c'est que ce scandale-là, t'sais, en lien avec l'intégrité, ça n'a pas commencé juste avec une personne qui a décidé de faire une mauvaise action. Non, c'est toujours une perte d'intégrité qui commence avec des petits morceaux. Donc, ce n'est pas le gros scandale au départ. On se dit, ah, ben, tu sais, c'est pas si grave, tout le monde fonctionne comme ça, je fais juste obéir aux attentes. Donc, il y avait certaines décisions, par exemple, qui étaient, ben, tu sais, je vais donner un peu un avantage, si on veut, à mon ami qui travaille dans telle autre compagnie, tu sais, pour essayer de faire, lui faire l'avantager lui et m'avantager moi dans cette situation-là. Et ces gens-là, c'était pas des monstres. C'était des gens comme vous et moi qui se sont ramassés dans une situation où peut-être qu'à un autre moment, à un autre contexte, ils auraient agi différemment. Donc, il y a quelque chose qui les a emmenés justement à agir d'une façon qui n'était pas morale, selon notre compréhension, qui n'était pas selon le sens de l'éthique. Donc, on a aussi vu que notre environnement peut avoir un impact sur notre sens moral, pour le meilleur ou pour le pire. Quand on est dans un système justement qui normalise les raccourcis, les faveurs qu'on donne à certains ou les façons de contourner les règles, bien, ça peut devenir assez difficile pour un individu isolé de rester intègre dans ces genres de situations-là. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand l'éthique s'effrite, hein, ce n'est pas seulement les institutions qui en souffrent, hein, ce n'était pas juste les différents éléments justement de la construction qui ont souffert de ça, mais ça a été tout le monde qui était autour, les citoyens, les travailleurs et les familles. Dans ce cas-là, effectivement, ça a eu un très gros impact. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ce n'est pas obligé d'être aussi gros pour quand même avoir un impact. Donc, ça nous ramène à nous, comme je mentionnais. Donc, justement, nous, ça commence dans nos milieux de travail, dans nos décisions ordinaires, dans nos motivations et dans ce qu'on fait quand personne ne nous regarde travailler. Alors, la Bible, ça nous enseigne sur l'éthique, bien sûr, et on voit que ça ne se construit pas sur des grandes décisions, mais sur des petites fidélités quotidiennes. C'est sur là-dessus qu'on va pouvoir construire notre intégrité. Donc, dans cette perspective, étudions ensemble le thème. Alors, Tim Keller commence son chapitre en posant une question assez pertinente. Qu'on comprend vraiment ce qu'on veut dire quand on parle d'éthique au travail? De quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Et juste pour voir, est-ce qu'il y en a certains dans la salle qui ont déjà lu un livre sur l'éthique professionnelle, qui ont déjà eu un cours là-dessus? Juste par main levée, peut-être. Alors, quelques-unes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez courant de nos jours, dans bien des différents domaines, comme les affaires ou l'ingénierie. C'est justement devenu assez place commune comme sujet d'étude. Alors, pour résumer la pensée de Tim Keller, lui dit que l'éthique séculière, donc lui, en faisant l'analyse de comment le monde, comment la société traitait l'éthique, il a vu que c'était bien, mais qu'il manquait quelque chose. Parce que selon lui, l'éthique séculière se résume ainsi, il est bon d'être juste, honnête et intègre dans son travail, parce qu'à long terme, ça fonctionne mieux et ça assure une rentabilité. Donc, je répète, Tim Keller, selon son analyse de ce qu'est l'éthique dans la société, il est bon d'être juste, honnête et intègre dans son travail parce qu'à long terme, ça fonctionne mieux et ça assure une rentabilité. Alors, autrement dit, l'intégrité est rentable, donc on a intérêt à être éthique. C'est souvent comme ça que les gens vont penser de façon générale. Si on pense, bien, tu sais, c'est donnant-donnant, OK, moi, je veux recevoir, donc je vais prendre les bons comportements qui vont me permettre de recevoir. Ce qui est éthique est une meilleure chose que ce qui n'est pas éthique, au final. Et c'est une vision où, tu sais, à première vue, on peut dire, bien, c'est raisonnable. C'est même des approches plus équilibrées en entreprise restent dans cette logique. Moi, dans le fond, j'ai dû faire justement un cours d'éthique quand j'étais dans mon baccalauréat en gestion de ressources humaines. Et le livre, justement, « Gérer la dimension éthique en entreprise », c'est un livre que j'ai lu, dans Michel Séguin et Marc-Ève Lapalme donne cette définition. L'éthique est une discipline portant sur l'ensemble des règles de conduite et des normes considérées comme bonnes et devant être suivie en vue d'établir des relations harmonieuses en société, de donner du sens à ses actions et d'être bien avec soi-même. Donc, prendre les actions qui permettent d'avoir des bonnes relations harmonieuses, donner du sens à nos actions et être bien avec soi-même. Donc, c'est une belle définition, mais je trouve qu'elle est très marquée par notre pensée occidentale moderne. Dans le monde antique, hein, ou même dans certains endroits aujourd'hui, merci. Désolé, petit moment de transition, comme je vous avais mentionné. C'est bon. Donc, c'est ça, belle définition de cet aspect-là. Mais c'est très occidental quand même comme façon de le voir. Dans le monde antique, ou même certains endroits encore aujourd'hui, agir de manière éthique pour nous aujourd'hui aurait pu être perçu comme étant un signe de faiblesse ou comme étant un signe justement de choses qu'il ne faudrait pas faire, justement parce qu'on était dans certaines situations où on se dit, ben c'est plutôt se venger de ses ennemis. par exemple, qui serait vu comme étant quelque chose qui est positif. Alors, on peut simplement, est-ce qu'on peut assumer que notre façon de voir l'éthique est donc universelle et s'applique à tous les âges? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on a quand même certaines variations qui viennent de notre société occidentale. Et d'où vient justement cette compréhension plus moderne ou que nous avons au général de l'éthique? Bien, nous, en tant que disciples de Christ, on sait d'où ça vient, ces affaires-là. On sait que c'est ancré dans le caractère même de Dieu, hein, dans ce qu'il nous a révélé à travers sa parole, et que notre société a été si fortement influencée et construite sur les valeurs chrétiennes qu'on prend souvent pour acquis certains des éléments que nous avons justement comme l'équité dans notre société et la moralité. Donc, voici juste un exemple de ce qu'on trouve dans la Bible concernant la moralité. Donc, en Michée 6:8, il nous dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc ça, c'est quelque chose qui caractérise la pensée de Dieu concernant la moralité et l'éthique. Et c'est ça qui a vraiment est venu influencer notre société. Sur le même sujet, un certain Fred Catherwood, homme chrétien qui a été vice-président du Parlement européen, disait que la corruption est l'un des plus grands obstacles au développement économique et à la stabilité politique dans le monde. Fait que lui-même, là, c'est, on voit, c'est comme un point de vue un peu plus moderne, si on veut, sur l'éthique. Et Tim Keller apporte la chose suivante. Nous sommes appelés à faire preuve d'honnêteté, de compassion et de générosité, non parce que ces choses sont gratifiantes et qu'elles rapportent, mais parce qu'elles sont de bonnes et justes en elles-mêmes et parce qu'en les pratiquant, nous honorons la volonté de Dieu et son plan pour la vie humaine. Donc, voilà la grande différence. On ne fait pas le bien parce que ça marche ou parce que c'est la meilleure manière de faire du profit. On fait le bien parce que ça reflète Dieu et parce que ça l'honore. Donc, on a vu dans les chapitres précédents, donc là, on est rendu déjà au chapitre 11, dans les chapitres précédents, on voyait qu'on doit prendre en considération la grâce commune. Si vous vous souvenez un peu de cet élément-là, grâce commune, quand on observe nos collègues de travail qui sont non-croyants, hein, on est tous sur un même pied d'égalité en termes de capacité et en termes d'horizon professionnel. Donc, ce n'est pas parce que nous, on est chrétiens qu'on a comme quelque chose de plus spécial par rapport aux autres. Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Autant des non-croyants peuvent faire des choses morales ou immorales que des croyants. Donc, on est tous un peu sur le même pied d'égalité. Mais il y a un certain aspect qui vient nous différencier des non-chrétiens, et c'est justement notre système de valeurs. On lit en Colossiens 3:23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Alors, là, vous voyez que j'ai mis l'emphase sur le mot « tout ». Hein, il revient deux fois. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non des hommes. » Donc, c'est vraiment l'ensemble de notre personne en entièreté qui doit agir ainsi dans toutes les sphères de notre vie, pas juste au travail, hein, parce que ce passage-là, en fait, ne traite pas spécifiquement du travail, il est de façon générale, mais il vient s'appliquer à notre travail absolument. Donc, tout faire pour le Seigneur au travail, ça a quand même plusieurs implications, on s'entend. Et on devrait premièrement être reconnu, entre autres, pour notre intégrité. Donc, nous, c'est quelque chose en tant que chrétiens qui devrait nous... pour lequel on devrait être reconnaître, on doit être vu comme des gens qui disent, plutôt qui font ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils pensent et qui vont jusqu'au bout de leurs engagements. Donc, quelqu'un qui se tient à ses engagements et comme si on le faisait pour le Seigneur, comme on avait vu. Il est vrai qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour agir avec intégrité et droiture, mais comme dit C.S. Lewis dans son livre « L'abolition de l'homme », nous avons une boussole morale qui est l'Évangile. On a une boussole en nous, justement, qui peut nous guider. Et cette boussole-là, bien sûr, est basée sur la parole de Dieu. Donc, cet élément, ça nous distingue parfois de ceux qui nous entourent, puisque la Bible met l'accent sur certains comportements bien, qu'on ne trouve pas dans d'autres visions du monde, tout simplement. De justement agir comme si on travaillait pour Dieu, bien, c'est propre au christianisme, là, dans ce cas-ci. Donc, Thomas d'Aquin, un très grand théologien de l'époque médiévale, avait étudié, entre autres, les quatre vertus cardinales de Platon. Donc, Platon... lui mentionnait que les vertus qu'on peut avoir en tant qu'humain, c'est la sagesse, le courage, la modération et la justice. Le courage, je l'ai appelé comme ça, lui mentionne plutôt la virilité, mais peut le comprendre comme le courage, en fait. C'est un peu plus compréhensible de nos jours. Donc, Thomas d'Aquin, justement, en analysant ça, a trouvé que ces éléments se trouvent également dans la Bible. Donc, bien sûr, il y a des endroits où on est appelé à faire preuve de sagesse, de courage, de modération, de justice, mais il ajoute trois autres éléments qui sont plus propres à la Bible et qu'on peut trouver dans 1 Corinthiens 13. Je vais essayer de le deviner avant que je le mentionne. La foi, l'espérance et l'amour, qui sont mentionnés à la fin. Hein? Trois choses demeureront, la foi, l'espérance, l'amour, et la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Donc, ces trois valeurs nous proviennent directement de la Bible. Pas beaucoup d'autres visions du monde qui les prônent autant que l'Écriture. Je veux dire, la compassion est une bonne chose. C'est quelque chose qui pouvait être, bien sûr, considéré comme étant une vertu par certaines cultures, on est d'accord, d'être compassionné. Mais d'aller jusqu'à aimer nos ennemis, dans un cas comme ça, on est complètement contre-culturel. Hein? Quand Jésus arrive avec ça auprès des pharisiens dans le Nouveau Testament, eux, ils ne comprennent rien. Là. Faites du bien à vos ennemis, mais de quoi qu'il parle, lui? On est complètement contre-culturel. Je pense que c'est encore pas mal le cas de nos jours aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Alors, dans d'autres visions du monde, même ce qui va être prôné, justement, c'est plus de détruire nos ennemis, de chercher la vengeance contre eux. Alors, ce n'est pas notre cas ici. Il faut aimer nos ennemis. Les valeurs du christianisme, justement, nous emmènent ailleurs. Et Dieu nous a créés par un amour éternel, justement. Cet aspect-là de l'amour est tellement important. Il nous a créés par amour et pour un amour, hein, pour qu'on puisse ensuite avoir une communion avec lui. Et ça fait tellement une partie intégrante de la Trinité, tu sais, les trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, qui vivent éternellement dans l'amour, justement. On voit que le plus grand commandement que Jésus mentionne, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Je veux dire, l'amour, c'est partout. Ça doit caractériser notre personne tout entier. Et ça, c'est vraiment un des aspects très importants, justement, sur la moralité et l'éthique au travail. Quand on considère ces deux aspects-là, quelle place est-ce que l'amour prend dans mes décisions? Donc, bien sûr, ça va avoir un impact sur la façon que j'effectue mon travail. Ça doit être le centre de mes priorités, et même au travail. Donc, je fais tout par amour, et ça guide mon sens de l'éthique. Autre citation de Tim Keller dans son chapitre, il pose une question que je vous laisse réfléchir. Est-ce que les relations humaines nous servent à accroître notre pouvoir, notre richesse et notre bien-être, ou est-ce que la création de richesses nous sert à aimer les autres? Hein? Est-ce qu'on voit parfois les gens qui nous entourent comme étant un peu des objets pour nous emmener à nos fins? On n'est pas à l'abri de cela. Réfléchissons plutôt à utiliser la création de richesses pour nous servir à aimer les autres. Tim Keller nous emmène par la suite dans une autre vision de l'homme. Donc, il nous dit, « La vision selon laquelle tout être doit être considéré comme digne de respect est profondément chrétien. » Donc, encore une fois, on a parlé de grâce commune un peu plus tôt. Et ce qu'on voyait dans l'Antiquité, si on regarde le philosophe Aristote, par exemple, il mentionnait que les humains ne sont pas tous créés égaux. En fait, tous sont créés pour pouvoir accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Donc, l'esclave est né pour être un esclave. Le maître est né pour être un maître. Et ça les distingue l'un de l'autre. Ils ne sont pas faits de la même essence l'un que l'autre, et ils sont nés pour accomplir leur rôle respectif. Quand Paul arrive donc dans le Nouveau Testament, il mentionne que maître et esclave doivent se traiter de la même manière les l'un envers l'autre. Ben, encore une fois, Paul il est complètement contre-culturel. Donc, il y avait Jésus qui était complètement culturel avec aimer nos ennemis. Et là, on a Paul qui vient dire, dans vos relations, ne considérez pas un comme étant plus important que l'autre. Tous sont sur un même pied d'égalité devant Dieu. Autant celui qui est le top que celui qui suit en dessous. Ou même dans ce cas-ci, on s'entend que dans des cas d'esclaves, là, c'était le pire que pire dans ces cas-là. Alors, on est tous créés à l'image de Dieu et on a tous droit au respect. Bien sûr, dans nos compagnies, chacun de mes collègues a besoin, droit à mon respect. Souvent, dans le monde des affaires ou dans le monde financier, on va voir des personnes comme étant parfois des outils. Comme je mentionnais, est-ce qu'on voit les gens comme étant un peu quelque chose qui nous aide à arriver à nos fins? Eh bien, moi, entre autres, dans le cadre de mon emploi en ressources humaines, juste le fait de parfois voir des employés comme étant juste un problème à gérer, plutôt comme étant une personne. Donc, je vais voir la personne pas tant comme qui elle est, je vais la voir un peu comme Mais c'est quoi le statut de ses fonctions? On arrive un peu justement dans ce que Aristote mentionnait. On considère la personne, bien, ce pourquoi il a été fait, et non pas comme étant une personne à part entière. Et même juste, moi, ça me fait toujours rire quand j'entends des gestionnaires parler de leurs employés puis dire « Ah oui, ma ressource ». J'ai l'impression qu'on a comme un petit disconnect, là. Je me dis, mais non, c'est des personnes, là. À un moment donné, parfois, c'est pas fait de façon consciente, bien sûr, dans la majorité des situations, mais tout de même, c'est parfois, on peut avoir tendance à réduire une personne à l'ensemble de ses responsabilités plutôt que de la voir comme une personne à part entière. De la même manière, dans d'autres domaines, on peut voir les personnes comme étant uniquement une vente potentielle. Dans certains, justement, quand on est un peu en développement, et on va voir la personne, puis économiquement parlant, bien, c'est sûr, on se dit, certaines personnes ont plus de valeur que d'autres, hein? Mais théologiquement et devant Dieu, on est tous créés à l'image de Dieu. On a tous la même valeur. Et nous, en tant que, justement, croyants, en cherchant, justement, à être éthique et morale dans notre travail, bien, on devrait les traiter, ces différentes personnes-là, de la même manière. Donc, efforçons-nous à traiter chacune de nos relations professionnelles comme étant des personnes créées à l'image de Dieu et non selon leurs fonctions. Bien sûr, plus facile à dire qu'à faire dans bien des cas. Souvent, le rôle d'une personne va nous emmener à le traiter d'une manière différente que certaines autres personnes. Si tu as le président de la compagnie qui vient te voir, généralement, ce n'est pas la même façon que tu vas parler juste avec ton collègue d'à côté. D'habitude, c'est comme ça que ça arrive, mais je veux dire, en termes de valeur en tant que personne, cherchons à voir les gens tous sur un même pied d'égalité. Un autre élément que Tim Keller nous apporte en lien avec la moralité au travail, c'est de rechercher la sagesse. Donc, la Bible nous mentionne que la sagesse est un élément qui est très important à considérer pour savoir ce qui est moral selon Dieu. Donc, on ne trouve pas de passage qui nous dit à quoi doit servir notre sagesse spécifiquement, de façon générale. Par exemple, il faut être sage dans notre choix d'époux, dans notre choix de travail, dans nos relations. Moi, je n'ai pas trouvé de verset qui me mentionnait spécifiquement qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans chacun de ces domaines-là. Mais la sagesse peut nous amener à justement pouvoir prendre des décisions qui sont peut-être plus sages. Hein? La sagesse nous amène à être plus sages. Wow, bravo Mathieu. Mais à faire des choix plus moraux, plus facilement. Donc, pour devenir sage de manière à faire les bons choix, comment est-ce qu'on peut le devenir? Hein, nous savons que Dieu est souverain, que toute chose est pour sa gloire, mais la réalité, c'est qu'on doit chercher quand même à prendre des décisions sages. Voici quelques éléments, entre autres, là, pour acquérir la sagesse, pour rechercher à être plus sage. Donc, non seulement croire en Dieu, mais le connaître personnellement. Quand l'amour de Dieu est quelque chose de concret pour nous, nos pensées vont se tourner naturellement vers la crainte et non pas vers l'orgueil. Donc, si on craint Dieu, bien sûr, on va vouloir prendre des décisions morales au travail. On doit ici également se connaître nous-mêmes. Donc, une certaine sagesse qui vient du fait d'apprendre à se connaître nous-mêmes. Parfois, hein, on peut prendre des mauvaises décisions simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on est capable de faire ou non. Parfois, là, ça peut arriver quand on est plus jeune, on se fait lancer dans un certain domaine ou un autre, et finalement, peut-être que ce n'était pas une bonne décision d'accepter tel ou tel mandat parce qu'on se rend compte, oh, OK, c'était vraiment pas dans mes cordes au final. Ou bien, parfois, ça peut être une bonne idée de se lancer parce que justement, on découvre des choses. Donc, c'est une bonne chose de justement apprendre à se connaître en testant plein de différents éléments. Mais il faut s'évaluer toujours à la lumière de l'Évangile, hein? Pas trop se sous-estimer, mais pas trop se surestimer non plus. Et finalement, la sagesse vient par l'expérience, comme j'ai mentionné. Dieu est souverain sur nos décisions et nous, il faut être attentif et apprendre en fait de nos erreurs afin d'agir avec sagesse. Donc, d'utiliser les erreurs que nous avons pour acquérir la sagesse. Donc, dans l'Ancien Testament, bien sûr, le bon livre pour connaître la sagesse, c'est le livre des prophètes. Des proverbes plutôt. Donc, on peut en lire plusieurs principes et prendre connaissance des principes de sagesse concernant toutes sortes de sujets. Dans les proverbes, on a la convoitise, la colère, l'orgueil, le découragement, la paresse, etc. Et il nous montre également comment on peut résister à certains attraits, donc les attraits de la beauté, des richesses, du pouvoir. Et finalement, il nous enseigne que le commencement de la sagesse, l'élément en fait le plus essentiel, c'est la crainte de l'Éternel, donc qui est le commencement de la sagesse. Et finalement, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on trouve un nouvel élément en lien avec la sagesse. Donc, Colossiens 1, 9 nous dit la chose suivante. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, donc une prière que Paul fait pour l'Église. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il fait une prière pour qu'il connaisse la volonté en toute sagesse. Éphésiens 1, 15 est également un passage qui est assez intéressant pour comprendre la sagesse dans le Nouveau Testament. Alors, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, et non au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Bon, quand même un gros passage, on va regarder plusieurs différents éléments. Verset 15, premièrement, le premier, ça nous mentionne de nous comporter non comme des insensés, mais comme des sages. Mais comment est-ce qu'on fait cela? On continue au verset suivant. Racheter le temps. Racheter le temps, c'est un sujet qui peut être assez intéressant en analysant, mais si je peux le décrire, c'est d'utiliser les moments, en fait, que nous avons sur cette terre de manière constructive, avec une perspective stratégique, justement, de pouvoir utiliser les différents moments que nous avons pour le royaume de Christ, en fait. Donc, moi, je pense, par exemple, à des gens qui ont besoin de se déplacer jusqu'au travail. Bien, on peut racheter le temps en écoutant notre Bible, en priant. Donc, essayer d'utiliser, justement, les moments que nous avons, d'utiliser les moments que nous avons. Le verset 18, ensuite, nous mentionne... Il nous exhorte à être remplis de l'Esprit. Comme on voit juste ici, ne vous enivrez pas de vin, hein, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, ça, c'est quand même vraiment particulier. Hein, être rempli de l'Esprit, c'est en nous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, et chanter de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Donc, on va pouvoir le faire ce matin. Là, on va s'encourager à être rempli de l'Esprit ce matin en chantant des cantiques ensemble. Et pouvoir chercher justement à être rempli de l'Esprit. Quand on est rempli de l'Esprit, bien sûr, l'Esprit vient justement nous aider à trouver la sagesse. On s'entend. Ça prend le Seigneur pour nous aider à se développer en sagesse. Et finalement, également, pour avoir cette sagesse qui vient de l'Esprit, on ne doit pas simplement attendre de la recevoir. On ne fait pas juste une méditation ensemble, puis on attend que l'Esprit descende sur nous pour nous donner la sagesse. Jacques 1, 5 nous mentionne plutôt comment faire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Hein, c'est une belle promesse, ça. Demande à Dieu la sagesse, il va te la donner. C'est quelque chose qu'on peut absolument chercher, la sagesse, pour, dans nos travails ou dans notre vie personnelle, demandons. Demandons tout simplement. Donc, Dieu nous donne la sagesse par l'Esprit. Et Tim Keller, encore une fois, je vous laisse une petite citation. Il décrit ainsi l'action de l'Esprit en nous concernant la sagesse. Donc, l'Esprit fait en sorte que Jésus-Christ soit une réalité vivante et joyeuse dans notre cœur. Ainsi, nous sommes transformés et une paix intérieure, une lucidité, une humilité, une assurance, un contentement et un courage nouveau nous sont accordés. Alors, plus de facilité à suivre mes notes papier. Donc, on voit également qu'on a un autre public. Si on passe à la prochaine étape, la prochaine section du livre de Mr. Keller. Donc, dans notre travail, on doit considérer notre cible comme étant différent que celui de la société. On va aller dans Éphésiens 6, les versets 5 à 9. Je m'excuse, je pense qu'il n'est pas dans les notes. Éphésiens 6, 5 à 9, si vous voulez suivre, je vais vous le lire. Donc, vous, esclaves, on est dans les relations là, entre les différentes personnes et on arrive dans les esclaves et maîtres. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maître, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Donc, ça peut nous sembler assez étrange hein, de lire des passages de nos jours qui parlent d'esclaves et maîtres. Je ne sais pas pour vous, ça tombe toujours un peu étrange. Parfois, il y a même certaines personnes de l'externe qui vont dire « Ah oui, la Bible enseigne, prône l'esclavage hein, à cause de justement des passages comme celui-ci. » Mais il y a deux éléments que j'aimerais qu'on voit et qu'on prenne en considération. Donc, premièrement, la relation d'esclavage au Nouveau Testament, ça n'a rien à voir avec ce qui a été vécu par les peuples durant la traite des esclaves, quand il y avait ça entre l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est très loin d'être la même chose. L'esclavage, en fait, n'était premièrement pas basé sur l'ethnicité, mais c'était pas nécessairement quelque chose qui allait durer toute une vie. C'était une relation plutôt qu'il y avait entre un esclave et un maître. Qu'est-ce qui t'emmenait à être esclave? Bon, parfois, ça pouvait être que ton peuple avait été conquéri par un autre. Ça, c'en était un. Il y a d'autres personnes qui devenaient des esclaves parce qu'ils avaient des dettes. Donc, on n'avait pas de loi sur la faillite à l'époque. Je pouvais pas dire « j'ai trop de dettes, je déclare faillite et j'ai plus besoin de faire mes remboursements ». Non, à la place, qu'est-ce qui allait arriver? C'est que tu allais devenir justement l'esclave de cette personne-là jusqu'à ce que tu ailles rembourser ta dette que tu avais accumulée. Donc, en fait, ça peut ressembler un peu, ces relations-là, quand même un peu à ce que nous avons aujourd'hui entre des employés et leurs employeurs. Donc ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément à prendre en considération, c'est que Paul, encore une fois, est complètement contre-culturel dans ce qu'il fait. Donc, alors que c'était complètement normal dans cette société-là d'avoir des maîtres et des esclaves, qu'est-ce que Paul, lui, il vient dire? Il dit que les esclaves doivent agir d'une certaine manière avec leurs maîtres et que les maîtres doivent agir ainsi envers leurs esclaves. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Comment ça se fait que le maître, lui, devrait être capable de dire n'importe quoi qu'il veut à son esclave? Mais non, verset 9. « Quant à vous, maître, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves. » Donc, il va être complètement différent que ce que la société dicte, complètement renverser l'ordre, où est-ce que, justement, il y avait un système de domination qui était très intense quand même, quand même quelqu'un qui avait le pouvoir sur la vie de l'autre personne. Et là, il dit « Maître, agissez ainsi de la même manière qu'eux agissent envers vous. » Donc, si, d'un autre côté, Paul demandait aux esclaves d'agir ainsi envers leur maître et aux maîtres d'agir envers leurs esclaves, eh bien, quelle bien plus forte raison, nous, en tant qu'employés et employeurs, on devrait suivre les principes qui se trouvent dans ce passage-là? Donc, si, justement, nous, on est dans une situation encore plus facile, qu'ils nous donnent des principes ici, eh bien, ça devrait s'appliquer encore plus à nous de nos jours, ou plus facilement, du moins. Donc, si l'esclave peut trouver un sens à son travail en servant le Seigneur, nous le pouvons également. Qu'est-ce que c'est? Obéir avec droiture, agissant non pour plaire à des hommes, mais agir comme esclave de Christ. Ça devrait être notre attitude également, bien sûr. Donc, Paul s'adresse aux employés, aux employeurs. Donc, on va voir un peu c'est quoi les différents éléments qu'il mentionne aux employés, premièrement. Donc, premièrement, s'engager de tout cœur dans leur travail. Donc, je sais que ce n'est pas mon cas tous les jours. Quand je suis au travail, travailler de tout cœur, là, quand je me fais donner une pile de choses là, qui ne me motivent pas tellement, ben, c'est sûr que je peux avoir plus de misère. Mais c'est pourtant ce que Paul demande aux esclaves. En ressources humaines, ouais, fait que, en fait, je suis dans une très grosse compagnie, alors moi, ce que je fais, c'est parfois j'assiste des gestionnaires. Lorsque, moi, c'est très spécifique, quand leurs employés ont fait des erreurs en lien avec la protection de renseignements personnels. Fait que moi, un gestionnaire, son employé qui a envoyé un courriel contenant des renseignements personnels à la mauvaise personne, moi, je rencontre le gestionnaire puis je lui dis « OK, ben voici la sanction à mettre en place. » Que bon, c'est un peu très, très particulier comme travail, très spécifique, mais c'est ça, je peux avoir certaines journées où justement tu dis « Ouf, il me semble que là, ça devient plus lourd. » Donc, justement, de tout faire de tout cœur là, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut être un défi. Je suis sûr que je ne suis pas le seul qui doit se sentir comme ça dans la salle ici. Et je pense à des étudiants aussi. Je pense que je pourrais peut-être appliquer ça aussi à nos études. Hein. Donc, je pense que ça s'applique également. Donc, cet aspect-là, travailler non pas premièrement également pour une récompense terrestre, mais travailler pour une récompense céleste hein, que nous recevrons dans le monde à venir. Donc, ce qu'on fait pour Christ, justement, Hein? C'est pour justement ce qui n'est pas terrestre, justement, c'est pas pour amasser des richesses, mais plutôt pour les récompenses célestes. Donc, on a été rendu libre, hein, pour apprécier notre travail. Et en travaillant, comme pour le Seigneur, on cherche à éviter justement le surmenage, à éviter le travail minimaliste mal accompli. Donc, on a un juste équilibre justement à trouver quand on travaille pour le Seigneur. Et on a plusieurs applications, donc, pour servir avec crainte et profond respect devant Dieu et devant notre patron. Donc, on doit être respectueux envers chacun, hein? Pas être méprisant, pas justement aller parler dans le dos, mentionner des mauvaises choses. On a un certain aspect justement à servir notre patron et être respectueux. Donc, on devrait également avoir une confiance, une assurance qui sont marquées par l'humilité. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose de nos jours qui est très valorisé dans les compagnies, l'humilité. Ce qui est plus valorisé, c'est plus de se démontrer, de justement se faire valoir, que les autres puissent justement voir nos caractéristiques. Et puis, c'est sûr qu'il y a un certain aspect de justement, si personne voit que tu es bon dans ton travail, là, il y a un autre enjeu, là, mais plutôt qu'on soit caractérisé par l'humilité dans nos emplois. On devrait également travailler avec sincérité de cœur, comme mentionne, c'est ça, dans la simplicité, donc travailler avec droiture, avec intégrité, et finalement faire notre travail, pas seulement sous leurs yeux, hein, pas seulement sous les yeux de notre maître, dans ce cas-ci, là, de notre patron, mais comme le feraient des êtres désireux de plaire à des hommes, mais de faire notre travail pour Dieu. Et finalement, quand il finit au verset 7, Paul dit d'accomplir notre travail avec bonne volonté. Hein? Donc, avoir la joie, hein? Une bonne humeur, pas être morose, mais plutôt quand même trouver une joie à travers notre travail. Ça peut être plus difficile à certains moments. Mais demandons au Seigneur de nous donner justement de pouvoir travailler avec cette bonne humeur dans notre travail. Et finalement, pour les employeurs, donc il y en a ici qui sont peut-être gestionnaires. Alors, il faut comprendre que vous êtes également des esclaves de Christ. Donc, on l'est tous, mais Paul vient justement mettre un peu plus en lumière cet aspect-là au verset 9. Donc, c'est une affirmation très forte, comme j'ai mentionné. Hein? Et Paul, justement, a une position aussi radicale qu'il devrait être esclave de Christ. Hein? Et c'est donc son argument, sa position, c'est que Dieu lui-même est impartial. Donc, Dieu, lui, ne voit pas la distinction entre l'esclave et le maître dans ce passage-là. Il ne voit pas la distinction entre l'employé et l'employeur. Donc, on est tous sur un même statu quo, au même niveau aux yeux de Dieu. On n'a pas une chose qui nous rend plus important de façon générale. Tous au même niveau. Et donc ça peut tous avoir certaines applications pratiques. Donc, encore une fois, dans Éphésiens 6-9, le maître doit entre autres s'abstenir de menaces. Les patrons, là, quand il y a un employé difficile, ben, je sais, là, justement, en accompagnant certains patrons, parfois, il faut modérer, parfois dire, attends, là, on va faire les choses en bonne et due forme, donc, entre autres, s'abstenir de menaces. Trouver une manière de servir ceux qui travaillent sous nos ordres. Hein, pas voir ceux qui sont sous nous comme étant juste là pour pouvoir venir nous servir et faire ce que nous, on leur demande, mais également de s'intéresser à eux en tant que personne. Pas les voir comme un morceau de la machine là, qui fait que ça fonctionne, mais vraiment plus être au service, s'intéresser à eux. Et puisque les classes sociales n'ont pas d'importance devant Dieu, elles ne devraient pas avoir une grande importance pour nous également. Pour conclure ce point, Tim Keller mentionne qu'on travaille tous pour quelque chose. Hein. On a tous un public dans un sens. On peut chercher à plaire soit à nos parents, à nos supérieurs, à nos collègues. On peut soit chercher à se prouver à nous-mêmes, montrer qu'on est à la hauteur, nous prouver qu'on est quelqu'un. Moi, j'ai réussi à me rendre à telle place. Mais en tant que chrétien, notre public, ça ne doit pas être les autres, ou même nous-mêmes, premièrement. Ça doit être notre Père céleste. C'est lui qui doit être notre public, celui pour lequel on fait notre travail, justement, et qui guide notre sens moral au travail. Donc, c'est ça qui va nous donner un sens, nous donner la joie au travail également, de savoir qu'on travaille pour Dieu. Donc, ça nous donne une orientation différente, l'orientation que donne ce nouveau sens moral, la prochaine section. Alors, si on n'est pas animé par le désir de plaire aux autres, par le désir d'accomplir, de nous accomplir par le travail plutôt, en fait, ça veut dire qu'il faut agir différemment que ceux qui recherchent ces choses. Premièrement, on devrait être juste, bienveillant, fidèle et loyaux. Hein? On ne devrait pas chercher à ce que nous soyons reconnus comme étant impitoyables. Ça ne devrait pas être ça notre réputation, mais plutôt chercher à être caractérisé par une compassion, une volonté de pardonner et de chercher la réconciliation. Tim Keller donne une histoire qui était très intéressante, je trouve, que je vous la raconte là. C'est une femme qui venait à son église. Et puis, ça venait de Z depuis un certain temps et elle quittait rapidement après la célébration. Donc, elle venait, elle restait un peu et elle quittait rapidement. Et un des pasteurs a réussi à l'accoster justement pour pouvoir avoir une petite discussion avec elle. C'est notre espace connexion là, qu'ils essaient d'attraper tous les nouveaux. Et dans le fond, elle expliquait que la raison pour laquelle elle était venue à l'église, parce que là, il a questionné, il dit, mais qu'est-ce qui t'emmène à l'église, entre autres? Et elle a mentionné que c'est en lien avec son emploi. Donc, elle travaillait à New York, donc Tim Keller dans une église, était dans une église à New York, et puis cette femme-là travaillait justement dans une grosse compagnie, et elle avait fait une erreur, une grosse erreur qui aurait pu être extrêmement coûteuse pour son emploi. Donc, vraiment, là, elle était dans la soupe chaude à ce moment-là, et elle se disait, bon, il va falloir que ça soit présenté au board, puis là, les autres, il va falloir qu'ils fassent une décision par rapport à ça. Mais quand son supérieur, son gestionnaire, est allé voir le board justement pour présenter la situation, il a tout expliqué comme si c'était lui-même qui avait fait cette erreur-là et non pas son employé. Et là, elle, quand elle a appris cette situation-là, elle dit, mais voyons, c'est quoi qui t'a emmené à faire ça? T'sais, c'est moi qui avais fait l'erreur, c'est moi qui aurais dû quand même avoir le blâme à ce moment-là. Et là, lui, il était un peu mal à l'aise, il savait pas trop comment répondre. Elle l'a questionné. Et il a dit finalement, ben écoute, moi, je suis chrétien et dans le fond, Jésus, lui, avait pris la responsabilité pour ses mauvaises actions à lui. Fait que lui, il pouvait bien prendre la responsabilité pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Elle a été absolument frappée et après un moment de silence, lui a dit, à quelle église allez-vous? Donc, petite anecdote comme ça qu'il a lu à son église, mais dans le fond, c'est ça qui l'a fait ensuite aller visiter cette église-là. C'était l'attitude qu'avait eue son patron envers elle. Donc, le cœur de son gestionnaire, lui, était réellement façonné par l'Évangile. Comme vous pouvez voir, après avoir vécu la grâce de Christ, il souhaitait agir de la même manière envers ceux qui l'entouraient. Donc, réfléchissons. Comment est-ce qu'on peut justement être un exemple, être des comme Christ, chrétien, petit Christ, comment est-ce qu'on peut être comme Christ à notre travail? Et finalement, deuxièmement, on peut être également caractérisé par une générosité. Donc, générosité, pas nécessairement monétaire, mais ça peut être produit de bien des manières à notre travail. Donc, ça peut être de donner notre temps pour nos collaborateurs, nos clients, pour pouvoir les aider. Ça peut être également à travers nos richesses. Donc, Matthieu 6, 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, ça parle pas mal, entre autres, du travail, parce que c'est à travers notre travail qu'on amasse justement des trésors qu'on peut avoir sur cette terre. Eh bien, il ne faut pas l'accumuler ici, ça, les choses qui disparaissent, mais plutôt amasser des trésors dans le ciel. Donc, chercher à amasser des trésors sur terre, si c'est ça mon objectif, là, je suis plus dans l'avarice que dans la générosité dans une situation comme celle-là. Et ce qu'on a sur cette terre est temporaire. Notre carrière ou notre perspective de carrière, ça peut également être quelque chose qu'on cherche, des trésors qu'on cherche à accumuler sur terre. Chercher à avoir une certaine carrière, une certaine position. C'est des choses qui peuvent être complètement perdues également. Si j'ai mis tout mon espoir dans soit mes richesses ou dans justement mes perspectives, dans mon emploi, et que je finis par les perdre, je pourrais être désespéré si j'ai mis tout mon espoir dans celle-ci. Donc, certaines personnes, après des situations comme ça, en fait, là, c'est des moments où est-ce qu'on pourrait aller justement faire des choses comme mentir ou essayer de trahir d'autres personnes pour essayer de se préserver dans ces situations-là. Mais Jésus nous mentionne plutôt que amasser des trésors dans le ciel parce que la réelle richesse est en Jésus-Christ. À la lumière de son œuvre et de son amour, nous pouvons être généreux avec les richesses de ce monde. Donc, finalement, on devrait éviter, ça je trouvais ça intéressant, d'être sectaire au travail qu'il mentionnait. Donc ça veut dire essayer de chercher un équilibre. Il y a certaines personnes qui au travail ne parleront jamais de leur croyance, ils vont juste pas le mentionner. Ça, c'est problématique. Il y a d'autres personnes qui vont trop en parler au travail. Et ça aussi, ça devient problématique parce que là, les autres sont écœurés de les entendre parler de Jésus. Et bon, c'est jamais ce qu'on souhaiterait qu'il se produise. Donc, il y a une certaine partie à trouver, justement. Donc, ça, c'est plusieurs des éléments, justement, qu'on pourrait avoir pour nous aider dans notre travail à imiter Christ. Finalement, pouvoir vivre les valeurs chrétiennes dans notre secteur professionnel. Donc là, j'arrive un peu vers ma conclusion. Donc, on a vu pas mal de différents aspects. Chercher la sagesse, chercher à être comme Christ, hein, que notre moralité n'est pas fondée par ce monde, mais plutôt qu'on doit chercher à être des serviteurs les uns des autres. Et j'avais mentionné au début la commission Charbonneau, entre autres, et puis on peut voir souvent, hein, c'est ça, la corruption. C'est certains éléments qui ont des gros impacts. Et ça peut ne peut-être pas être notre réalité. C'est peut-être que nous, on n'est pas dans un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup de corruption ou différents éléments. Et la réalité, c'est que dans la majorité de nos situations, on ne va pas vivre beaucoup de dilemmes éthiques au travail. Mais quand même, c'est important de se poser la question de où se trouve notre sens de l'éthique par rapport à notre travail, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on pourrait se retrouver ou qu'est-ce qui pourrait se passer à notre travail. C'est important de bien mettre sur pied justement les différents éléments qui ont été évoqués ce matin pour pouvoir s'assurer qu'on va bien réagir justement quand on arrive devant ces épreuves-là, devant ces situations-là, qui pourraient nous tenter justement d'agir de manière qui n'est pas éthique. Donc, on n'est peut-être pas dans une position qui nous permet d'apporter des changements significatifs en ce moment dans notre emploi. Peut-être qu'on l'est. Peut-être qu'on est ceux qui prennent des grosses décisions. Et peut-être qu'un jour, on aura une position plus significative sinon. Et à ce moment-là, on pourrait apporter des changements, justement. Essayons d'évaluer, hein, c'est quoi certains éléments dans notre emploi. Qu'est-ce qu'on peut améliorer peut-être par nos valeurs chrétiennes, justement. Et commençons à réfléchir dès maintenant en profondeur à notre travail, hein. Travaillons avec l'espoir que le Seigneur nous donnera l'occasion d'avoir un impact positif pour le royaume directement dans notre travail. Donc, ça fait le tour pas mal de ce que j'avais préparé. Je ne sais pas, on a quelques minutes peut-être pour faire des questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions justement par rapport à cet aspect-là, la moralité, l'éthique au travail? Des commentaires? Non? Bon, ben. Dans ce cas-là, je vais conclure en prière que le Seigneur nous donne justement de pouvoir le servir, hein, dans tous les domaines de notre vie, entre autres notre travail. Oui, Père, merci pour, encore une fois, je te remercie toujours, Seigneur, pour ta parole, parce que je ne peux jamais être assez reconnaissant de tout ce qu'elle nous enseigne, tout ce qu'elle nous montre. Et on a vu ce matin, Seigneur, c'est toi qui définis, hein, notre sens de la moralité, notre sens de l'éthique. Et je te prie que tu puisses vraiment nous aider à chercher à être comme Christ, chercher à se donner, à être des serviteurs, à avoir de la compassion, Seigneur, au travail pour nos collègues, pour nos patrons, pour nos clients, qu'on puisse vraiment voir les gens comme sur un même niveau, Seigneur. Toi, tu nous vois tous sur un même pied d'égalité. Aide-nous à avoir cette vue-là également pour ceux qui nous entourent. Aide-nous également à résister lorsqu'il y a justement des opportunités de peut-être faire des choses qui ne seraient pas complètement selon le sens de l'éthique, Seigneur, à vraiment pouvoir plutôt nous ancrer en ta parole et en toi et pouvoir résister si jamais il y aurait certains de ces éléments-là. Et oui, donne-nous de pouvoir être des exemples, Seigneur, de pouvoir être des lumières dans notre travail, entre autres à travers nos actions, mais aussi à travers nos paroles et nos comportements. Donc. Oui, Seigneur, dirige-nous et aide-nous justement à t'honorer en toutes choses, dont notre travail. Amen. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà.